Vas-y, vas-y, plus fort.
C'était la question de vous expliquer bien le rapport de Vipio, la racine avec Dharmakaya, de racine.
Expliquer les trois racines.
Voilà.
Ouais, je suis infatigable. Donc, je reprenais le texte du refuge déjà. Hein? Le texte de la cérémonie de refuge. D'accord? Oui, il y a un texte, sinon sur le site, hein, où c'est résumé. Déjà, ça peut aider comme base de réflexion. Hein? Le texte de cérémonie de refuge. Et il y en a un qui a été mis aussi dans son entier, texte de cérémonie de refuge, pour le reprendre à soi-même, sans officiant. D'accord ? C'est pour reprendre une fois qu'on a fait une cérémonie, au moins on le reprend à chaque fois, tous les jours, au moins une fois par jour, ou trois, ou voilà, etc., pour se remémorer. Et puis pour l'intégrer. Par refuge, on entend bien sûr la force d'aspiration. Donc dans ce refuge, il y a trois objets communs à toutes les écoles bouddhiques. Il y a trois objets. On appelle les trois joyaux. D'accord ? La nature même de l'esprit dans sa bouddhéité. La loi, le dharma, une loi philosophique, spirituelle, c'est l'affirmation, hein, le dharma, en tant que la loi sur laquelle s'appuie l'enseignement bouddhique. Et d'autres éventuellement. C'est l'affirmation de la vacuité des phénomènes et de l'esprit. C'est un minimum. D'accord ? Après, on peut aller à plusieurs types de vacuité. Vacuité du sujet, de l'objet, etc. Il n'y a pas si longtemps, hein, dans les derniers souhaits, c'est marqué au moins 20 vacuités, hein, ou 18 des fois selon les catégories. D'accord ? On peut faire autant de vacuités qu'il y a de phénomènes. La vacuité du rouge, du bleu, du jaune, etc. Mais dans Dharma, il faut d'abord l'entendre comme une loi, l'énoncé d'une loi qui n'est pas abstraite. Que même scientifiquement parlant, on est confronté à cette vacuité de la matière. Il n'y a pas quelque chose comme étant de la matière, c'est une dynamique. Hein, et pour reprendre les termes d'un grand scientifique, Brogard, hein, dans Science et Conscience, un colloque qui a été fait à Cordoue, enfin, je ne sais pas, en 1980, je crois 79-80. Enfin, il y avait des spirituels, des scientifiques. Et Brogard dit. La matière n'existe pas, elle tend constamment à son existence. Mais à un moment, il y a une phase de résorption, une sommité, à un moment, puf, voilà. Nous, en yoga, c'est ce qu'on passe, la manifestation la plus probante, hein, qui est appelée élémentaire, et puis hop, résorption à la vacuité, et à nouveau, recréation, vacuité, élément espace, élément air, élément feu, élément eau, élémentaire, et ainsi de suite. Oui. Vous avez étudié les éléments avec moi. Donc cette loi est un joyau, un cadeau. Il faut voir le joyau, hein, d'accord, comme quelque chose, un cadeau qui nous est donné. Alors déjà, qu'on nous le dise, c'est un cadeau. Et là, c'est le dharma en tant qu'enseignement. Mais que cette loi existe, c'est un cadeau. D'accord ? Énoncer la vacuité des phénomènes, ça veut dire que rien n'est fatal. la matière, ouais, les phénomènes psychiques, virtuels, les idées, les sentiments aussi, voilà, toutes sortes de manifestations. Manifestations matérielles, on va dire, pour faire vite, l'univers, les atomes, voilà, etc. Les manifestations biologiques, hein, les manifestations botaniques, etc. Hein. Tout ce qui se manifeste, d'accord, et tout ce qui se manifeste à l'esprit, on appelle ça des manifestations spirituelles, hein, d'ordre de l'esprit, ou si vous voulez, idéales, c'est de l'ordre de l'idée. Même une émotion est de l'ordre de l'idée, c'est pas matériel. Alors des fois, on utilise le mot mental pour caractériser ce qui n'est pas matériel. Hein. Mental, virtuel, vous voyez ce que vous pouvez mettre. Idéal, c'est beaucoup plus approprié, je trouve. Mais c'est de la manifestation. Vous vous souvenez, avec les cinq agrégats, il n'y a pas de manifestation en dehors des cinq éléments. Et les cinq éléments, c'est une cuisine qui fait manifestation. D'accord ? C'est une alchimie qui fait qu'il y a manifestation. Manifestation manifeste, évidente, claire. D'accord ? Mais vide de réalité propre. Et là, c'est l'affirmation que cette clarté s'appuie sur une dynamique relative, interdépendante. Donc c'est une chance, c'est un joyau ce dharma. C'est une chance où on nous informe que ce n'est pas fatal, que tout est transformable, tout est en transformation transitoire, et en plus, nous, on peut participer à une certaine transformation des choses. C'est ce que fait l'homme depuis qu'il est homme. Alors des fois, c'est excessif, c'est catastrophique, sur un plan écologique, par exemple. Hein. Il faut savoir mesurer ce pouvoir de transformation. Même sur le corps, au niveau médical maintenant, hein, on transforme notre vie biologique, d'accord. Et là, il va falloir aussi une bioéthique, hein, pour que ce pouvoir de transformation biologique qu'on a sur nos propres corps, hein, ne passe pas dans un délire, hein. D'accord. Donc le dharma, c'est un joyau, d'accord. Le dharma, avec un grand D majuscule. Alors des fois, on l'énonce comme Sam Dharma, Dampei Che, qui a été malheureusement traduit par le Saint Dharma, S-A-I-N-T. Là, on risque de créer des fondamentalistes bouddhistes qui vont partir en guerre sainte un jour. Et puis, non, parce que dans certains textes des tantras, comme Mahakala, par exemple, certains traducteurs ont fini par traduire les ennemis du Dharma. Et puis après, inviter Mahakala à tuer les ennemis du Dharma. Dans les tantras, c'est très virulent. Hein. On trouve ça dans la Bible aussi. Mais si c'est pris à la lettre, c'est très dangereux. D'accord, hein. Alors, les guerres saintes, attention.
Dans le Coran aussi, on parle des ennemis qui sont intérieurs.
Oui, voilà.
D'ailleurs, ils font la guerre à l'extérieur.
Tout à fait. Un maître soufi nous avait rappelé ça dans un colloque interreligieux. Je faisais le bouddhiste de service au Kalyosan. Et il expliquait que de mémoire, hein, que le prophète Mahomet, en revenant de la première guerre de Médine, c'est ça, hein, un de ses généraux a commencé à dire, hein, oui, un de ses généraux, pardon, hein, dit au prophète, ça y est, la guerre sainte est commencée. Et le prophète aurait dit, non, la guerre sainte, c'est contre l'ego. Voilà. Ça, c'est un maître soufi qui... Parce qu'il ne faut pas rester au pied de la lettre, justement. Hein, c'est tout le problème des traditions, elles sont paraboliques, hein, elles sont faites de métaphores, etc. D'accord, parce que ça raccourcit le discours, mais c'est des fois, c'est comme les contes de fées, si on le prend pour une légende, pour une réalité, on se fait avoir. Et c'est pour ça qu'il y a aussi des textes philosophiques, la théologie, hein, nous on a l'Abhidharma, hein, dans le bouddhisme, etc. Et là, ça demande étude. C'est un devoir qu'on prend quand on prend les vœux de refuge. J'insiste beaucoup sur cet engagement quand on prend refuge, comme on dit en français, prendre refuge, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais bon. Hein, d'accord. Quand on s'implique dans notre aspiration à s'éveiller...
Hein, toi aussi, tu ne sais pas ce que ça veut dire.
Non, non. C'est une formule qui n'existe pas. C'est plus, on aspire, hein, on s'implique dans une aspiration à l'éveil. On choisit notre objectif Hein, d'aspiration, si on fait un bon usage du désir. Un contrat avec soi-même, bien sûr, etc. Ce que je voulais dire, je ne m'en souviens plus. Voilà. Et quand on fait cette cérémonie de refuge une fois dans sa vie avec un officiant, après on fait avec soi-même, hein, on prend l'engagement, hein, d'étudier le dharma, au sens l'enseignement, par soi-même, pour avoir une conviction, hein, personnelle, d'avoir une conviction par la force de l'étude, d'accord ? Ce qui permet de ne pas rentrer dans une croyance. Parce que la croyance, c'est on délègue, d'accord ? Et puis on se complaît, hein, parce que c'est, la croyance, c'est une paresse d'esprit qui peut nous soulager, d'accord ? Hein ? Je veux croire, c'est bien, d'accord ? Mais c'est dangereux. Ça n'aboutit pas à des expériences. Alors bien sûr, il y a toujours un préalable de croyance, d'accord ? Une confiance affective, a priori, tout simplement. On est bien obligé de partir de là. Mais après, il faut étudier, analyser, douter, raisonner, argumenter. Et cette part-là, on a l'impression que pas beaucoup de gens s'impliquent dans cette étude. Et pourtant, c'est un vœu de refuge. C'est un devoir qu'on doit à soi-même pour ne pas être un adepte. Donc le dharma est un joyau aussi. Notre bouddhéité, hein, Bouddha Sakyamuni, il n'y a pas de Bouddha en dehors de notre propre esprit. D'accord ? Donc on aspire à cette bouddhéité. On aspire à la réalisation de ce dharma, réaliser la vacuité des phénomènes et de l'esprit. Et ensuite, hein, on peut avoir des relations avec ce qu'on appelle la sangha des transmetteurs. Ceux qui transmettent. C'est-à-dire ceux qui partagent, hein, qui enseignent le dharma, etc. Et à toute proportion gardée, on est tous à un moment un transmetteur du dharma. Si votre voisin vous pose une question sur le dharma, vous commencez à transmettre. En toute humilité, en toute modestie, en toute proportion gardée, vous pouvez même vous prévenir, écoute, je ne pratique pas beaucoup, je n'ai pas tout compris, mais d'après moi, voilà ça, ma réponse à telle question. Vous voyez ? Eh bien, vous faites partie des transmetteurs, dans un moment donné. D'accord ? Là aussi, les transmetteurs, il n'y a pas d'élite. Sauf, bien sûr, attention, on recadre un peu. On n'a pas besoin d'être moine pour enseigner, d'accord, hein, tout simplement. Il n'y a pas besoin d'être Rinpoche Lama pour consacrer son hôtel. On n'a besoin de personne. On fait Om Aum, on nous explique la vue qui s'associe avec Om Aum, et on consacre notre hôtel, hein, voilà, on le consacre, hein, on ne bénit pas bien sûr. On le consacre à être conforme à la vue pure que j'établis, d'accord. Donc on a une sangha, et là aussi c'est un cadeau. On peut avoir des grands frères, des pères, des mères, d'accord, des amis sur le chemin. Certains peuvent s'en passer, hein, si ce n'est pas dû à une arrogance, hein, une autosuffisance bien sûr. Bon, en général, il y a un minimum de transmission, quoi. Donc, on a trois cadeaux. La bouddhéité, le dharma et la sangha. Et ça doit répondre à trois questions. Surtout quand on aboutit à une prise de conscience après la méditation des quatre idées fondamentales. Vous voyez ? Les quatre idées fondamentales, c'est la première phase, c'est se libérer, hein, enfin, se voir dans une prison, prisonnier qui va créer une nécessité de libération. D'accord ? S'extraire, d'accord, de notre condition, hein, qui rajoute à l'obscurité mentale, qui rajoute à la souffrance, et ainsi de suite. Le cheminement spirituel peut s'établir en trois, hein, libération, émancipation et éveil, au sens vraiment obtenir la grande bouddhéité, quoi, hein, Samyak Sambuddhaya. Et après, il y a des paliers d'émancipation. Autrefois, je disais, il y a plusieurs éveils. Hein, d'accord, il y a un seul et même éveil, hein, au sens ultime, complet, dans sa complétude, hein, Samyak Sambuddhaya. Pour arriver à ce qu'on appelle l'état de Bouddha, d'un être éveillé. Mais il y a des paliers d'émancipation, etc., qu'on peut accélérer, bien sûr, on peut brûler les étapes, hein, pour certaines personnes surdouées, peut-être. Libération, émancipation, éveil. Il faut commencer par une libération, se libérer. D'accord ? De nos mécanismes, de nos schémas karmiques, de nos conditionnements, hein, justement de nos prétextes à ne pas s'éveiller, et nos prétextes à rester dans une sorte de victimisation existentielle. Le monde me trompe, les apparences m'illusionnent. Non, on ajoute une illusion sur la perception qu'on a du monde, d'accord ? On ajoute une illusion sur la perception qu'on a des autres. On ajoute une illusion sur la perception qu'on a de nous-mêmes, d'accord ? Ça va ? Donc à un moment, ça crée notre prison. Voilà, c'est ça. C'est ça. Réductrice, limitante, sclérosante. Voilà. D'accord ? Et il faut s'apercevoir qu'on se fait sa prison. Ne serait-ce que ça, c'est un moment énorme. Voilà. Automatiquement, ça doit faire naître, hein, une aspiration. C'est pour ça que, à partir des quatre idées fondamentales, on crée la nécessité d'aspirer. C'est la nécessité d'un refuge, si vous voulez, hein, pas dans le sens qu'on cherche une assistance. D'accord ? Hein, le refuge, c'est la force d'aspiration. D'accord ? Ça va ? C'est l'aspiration elle-même qui est un refuge. Un refuge contre la sclérose. D'accord ? Contre la complaisance, la paresse, l'obscurité mentale. D'accord ? Mais après, il faut bien choisir son... il faut bien choisir son objectif. L'aspiration, c'est un élan très naturel, d'accord ? Mais il faut trouver un objectif digne de ce nom, dans le sens d'une sublimation existentielle, qui tient la route après la mort aussi, d'accord ? Pas une petite aspiration sur du court terme. Il faut de l'envergure, de la perspective, de l'ambition sur du long terme. D'accord ? Parce que cet éveil... Après l'éveil, il y a une vie, d'accord ? Sur du long terme aussi. Les vies d'un éveillé sont infinies. La vie d'un illusionné est infinie. C'est la même. C'est le même infini de vie. Rien ne s'arrête. D'accord ? Il n'y a pas d'état définitif. Donc, ces trois joyaux répondent à trois questions qu'on doit se poser. Justement pour cadrer cet objectif. Le chemin spirituel, si on prend l'exemple d'une navigation, il faut un cap. D'accord ? Donc la première question, c'est vers quoi tendre ? Shiwa en tibétain, hein, Shio, quand on veut faire une forme plus impérative, hein, Sangela Kapsu Shia ou Shio, hein, Sangela Kapsu Shio, Shia, Shiwa, Shiwa veut dire aller vers, tendre. Donc c'est aspirer. D'accord ? Et ça veut dire bouger, quoi. C'est pas une aspiration velléitaire. Tiens, j'aimerais bien aller à Paris. Bon, je vais. D'accord ? Je vais à Paris. C'est un cap et on fait ce qu'il y a à faire pour y arriver. Je vais à la gare, je prends un billet, ou j'ouvre Internet et je me prends un billet. Vous voyez, les vélitaires disent, ils restent sur place, « Ah oui, j'aimerais bien aller à Paris. Ah, j'aimerais bien que l'univers me donne des conditions pour arriver à Paris. » Vous voyez, les gens, hein, on trouve des... Hein, ça me révolte toujours un peu, ça me... j'ai envie de les enculer. Bouge-toi, quoi. Déjà, socialement, il faut se bouger. Hein. Mais spirituellement parlant, c'est la même démarche. Hein. Chiwa, c'est vraiment... Le terme français aspiration est trop faible. Hein. Je sais pas, c'est des tripes, c'est de la niaque, quoi. Je sais pas comment on peut dire, vous voyez. Hein, c'est, voilà, je vous bouge. C'est-à-dire, on stimule le plancher pelvien, l'élément air, hein, le verbe primaire, hein, je me bouge, quoi. Hein, le mot erectus, quoi, c'est le viril, la vertu, hein, d'accord. C'est ça la vertu même de l'aspiration. Et quand on a touché cette vertu de l'aspiration, là, par le plancher pelvien, qu'on peut arriver par les prosternations, hein, du refuge, eh ben, on ne rechute pas. C'est pour ça qu'on dit que quand on a réalisé le refuge, on ne rechute pas dans les mondes inférieurs. De l'obscurité mentale, l'opacité, hein, la complaisance, la paresse, voilà, la dépression, et ainsi de suite. D'accord ? Tout se tient. Hein. Stimuler ce plancher pelvien. C'est ce qu'on fait quand on se prosterne dans un temple. On récapitule notre refuge. Hein. Mais ce n'est pas de s'aplatir qui est la prosternation. On s'aplatit pour pouvoir faire créer ce moteur en se relevant. Vous voyez, hein, la prosternation, elle est dans la verticalité, elle n'est pas dans l'horizontalité. Mais pour trouver cette verticalité, il faut un peu d'humilité, mais surtout déposer des choses, comme une vieille peau, et revenir. C'est pour ça qu'après, on réendosse le zen, hein, pour reprendre ses voeux, rendosser une nouvelle peau. Bon, ça y est, voilà, j'ai fait amende honorable, etc. Hop, et je me reprends ma détermination à l'éveil. Hein, souvent, les personnes se prosternent dans le sens, ils restent dans cette phase d'aplatissement en quelque sorte. Hein. Mais non, on travaille la verticalité. Hein, le plancher pelvien, etc. etc. Ben oui, c'est ce qu'on fait dans les prosternations au refuge. Hein, c'est peut-être pas très expliqué souvent. Hein, mais c'est un yoga, d'accord ? On travaille. Hein, et ça se fait avec conjonction d'une ouverture d'inspiration, hein, d'accord ? Il y a un décloisonnement du corps, et on pourrait dire des chakras, mais j'aime pas trop le terme. Hein. Tout cela se tient. Et on l'a dans la formule dite du refuge, la prière de refuge. Hein, Chiwa. D'accord ? Et ensuite, Kiapsu, qui est traduit par refuge, est devenu un substantif en français. C'est malheureux. Le refuge. Alors, kiapsu en tibétain et en sanskrit, c'est l'adverbe d'aller. Vous voyez la différence ? C'est-à-dire que ça qualifie la puissance que tu mets dans le mot aller. C'est ma seule chance d'aller. Vous voyez ? Mon seul recours que j'ai, c'est d'aller. D'accord ? Tu te vois en prison ? Bon, ben, sors. Ben, je sors. D'accord ? Mais si on projette l'idée qu'il y aurait un Bouddha là-bas qui serait mon refuge, on rentre dans un mécanisme d'assistance spirituelle. Et après, ça va être une divinité, vous voyez, etc. Et là, on rentre vraiment dans les pathologies qui peuvent être très graves et qui va créer justement des emplacements où vont s'immiscer des démons. Pour revenir à notre sujet de cette retraite. D'accord ? Donc, premier questionnement, vers quoi tendre ? Ça veut dire, qu'est-ce que je veux faire de ma vie ? Qu'est-ce que je fais de mon existence là, maintenant, actuellement humaine ? Donc, on a médité la précieuse existence humaine, hein, le temps nous est compté, machin, machin, machin. Et oui, maintenant, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je veux en faire de ma vie ? Hein, si je veux la rendre précieuse, d'accord ? Eh bien, on se donne un projet digne de ce nom, un projet sur du long terme, avec de l'envergure, de l'ambition, d'accord ? J'aime bien le mot prétention aussi, d'accord ? Chiwa pourrait être traduit par prétendre à. Oui, on tend à, mais au préalable. Je tends à l'éveil préalablement. Après, je sais qu'il va y avoir un chemin, d'accord ? Prétendre, prétention. Vous cherchez du boulot, votre patron, il cherche quelqu'un qui propose des prétentions. D'accord ? S'il y a un quémandeur, j'ai besoin de travailler, j'ai choisi votre boîte parce que j'ai besoin de travailler. Ben, je ne vous veux pas, monsieur. Hein ? J'ai besoin de travailler, mais votre boîte a besoin de moi, si j'ose dire. Hein, vous voyez, je serai utile, je peux contribuer à quelque chose. Vous voyez, hein, dans prétention au sens professionnel du terme. D'accord? Quelles sont vos prétentions? D'accord? Et là, il ne faut pas jouer le modeste. Hein, là, c'est encore un démon, hein, déguisé en. D'accord? Hein, péché d'angélisme. Maintenant, je suis modeste, vous voyez? Hein. Il y a une très bonne expression, hein, dans le monde, dans notre monde catholique, péché d'angélisme. D'accord? C'est un démon, c'est le pire. Il ne montre pas son visage. D'accord? C'est séduisant, c'est réconfortant. Maintenant, je suis modeste, je ne prétends rien. D'accord?
J'ai bien aimé l'expression « le temps m'est compté ».
Oui.
Ça, c'est...
C'est vrai. Et on est comptable du temps qu'on a perdu. Vers quoi tendre? La bouddhéité. Le Bouddha Sakyamuni dit, hein, prenez refuge, alors c'est une traduction française, hein, aspirez à votre bouddhéité, il n'y a pas de Bouddha en dehors de votre esprit, donc c'est la nature naturelle de l'esprit, hein, d'être éveillé, bodhicitta, d'accord? Deuxième question, avec quoi? Ben avec le Dharma, appuyez-vous sur une loi, hein, qu'on peut résumer en, hein, la vacuité de l'esprit et la vacuité des phénomènes, d'accord, qui adviennent à l'esprit. Vacuité de la connaissance et vacuité des connaissables, si vous voulez. Ça ne veut pas dire inexistence. Hein, et là, il faut bien comprendre, en résumé, la vacuité d'avoir mis une réalité là où il n'y en a pas. D'accord? N'imputez pas l'esprit comme étant vide. D'accord? Ou les phénomènes comme étant vides. Ce n'est pas de leur fait, ça. D'accord? Ils sont naturels. D'accord? Mais la vacuité d'avoir mis une réalité à l'esprit, une réalité qu'il n'a pas. Une réalité, ça veut dire une chose en soi, une entité propre, un absolu, ou un état particulier, ou une condition particulière, caractéristique. Hein? L'esprit est humain, par exemple. Vous voyez, c'est une réalité caractérisant l'esprit. Hein, il est humain, donc il ne peut pas être animal. Hein. À une époque, on pensait aussi que les hommes avaient une âme et pas les femmes. Vous voyez, bien, c'est une caractéristique d'une réalité. Hein. On prête une réalité à l'esprit. Donc attention, hein. Mettez pas le mot. La vacuité ne désigne pas. N'est pas attribué au phénomène en tant que tel et à l'esprit en tant que tel. Hein? Il est attribué à notre erreur d'appréciation, à nos imputations sur la perception qu'on a de l'esprit et sur la perception qu'on a des phénomènes. C'est la vacuité de nos illusions, la vacuité de nos rêves, de nos Pères Noël, et ainsi de suite. Tant qu'on ne réalise pas la vacuité de nos rêves, on parlait de rêve hier, hein, rêve du monde. D'accord? Tant qu'on ne réalise pas la vacuité de nos rêves, eh ben, on reste dans nos petits Pères Noël, bien tranquilles, confortables. Hein, et puis on va être surpris un jour, au moment de notre mort peut-être, d'avoir cru au Père Noël toute sa vie. Quoi. D'accord? Donc la deuxième question, c'est avec quoi? Eh ben, on a une loi. Qu'est-ce qu'on fait de cette loi? Vous l'écoutez, vous en écoutez la théorie, hein? Ensuite, vous l'analysez, vous réfléchissez avec vous-même, d'accord? Et ensuite, l'expérience, qu'on appelle méditation. Hein? Donc, on s'applique aux trois entraînements. Écoute, analyse, méditation, sous-entendu par méditation, hein? Arriver à l'expérience. L'expérimentation et l'intégration. Maintenant, après la question vers quoi tendre, avec quoi y arriver, il y a une troisième question, avec qui y arriver, c'est-à-dire avec qui, avec l'aide de qui, d'accord? Si besoin. D'accord? Et c'est ce qu'on appelle Sangha, une communauté de gens aspirant à la vertu. Sangha, en tibétain, c'est Gendun. l'étymologie du mot sangha, je ne connais pas trop. Il faudrait que je l'étudie d'ailleurs. Mais en tibétain, c'est gen dun. Ge, c'est vertueux. Dun, aspirant. Aspirant à la vertu. Ça veut dire des gens qui savent, pratiquement comme un professionnel, ce qui est vertu à l'éveil et ce qui n'est pas vertu à l'éveil. D'accord ? N'attendez pas des modèles d'exemplarité. C'est peut-être possible hein, qu'il y ait des gens exemplaires, j'en sais pas. Hein. D'accord ? Mais là aussi, attention, le démon de chercher l'exemple chez autrui et éventuellement de le prendre à défaut pour se convaincre que nous, on est plus exemplaires, vous voyez ? Et là, c'est le démon de démon. Hein, d'accord ? Attention, Gendun, c'est aspirant à la vertu, dans le sens, c'est pas obligatoirement, enfin, c'est sine qua non, si j'ose dire, hein, d'accord, mais c'est peut-être pas un modèle de moralité à vos yeux. Hein. J'ai entendu quelqu'un une fois, mais ça peut pas être un lama, il boit de l'alcool. Vous voyez, ça veut rien dire.
Mais le sangha, c'est pas du lama, c'est aussi tout,
nous tous. Là, ici, en tant que joyau, c'est la sangha des transmetteurs. Ça, c'est... Calorie Pochet a bien fait la distinction. Hein. Ceux qui transmettent. Mais comme je le dis, d'un point de vue général, on est tous à un moment, peut-être, dans une situation de transmettre une réponse à une question. Et là, ne vous le refusez pas. Mais par contre, voyez l'importance que pour quelqu'un, vous pouvez être un cadeau. Ça arrive. Il y a plein de témoignages autour de moi, de gens qui... Mais tu sais, grâce à lui, il m'a répondu une question. C'est lui qui m'a amené vraiment à approfondir la pratique du dharma. Oui.
Je dirais, moi, ce qui m'arrive régulièrement, c'est les personnes qui ne me posent pas dans le sens de poil, déjà.
Voilà, si tu veux choisir une...
Mais avec bienveillance.
Voilà. On a tous son professeur d'école qui a été un maître aussi, un guide, hein, un ami sur un chemin. Hein, ça peut être un parent, ça peut être notre pire ennemi des fois. Hein. Donc c'est ce qu'on appelle tous les lamas racines, hein, les différents lamas racines. Donc le lama d'une lignée hein, qui transmet. Alors lama, c'est bien sûr, c'est pas une élite, c'est juste un titre d'habilitation à transmettre l'ésotérisme du bouddhisme. À partir de là, c'est tout. C'est la seule élite, d'accord. Et ensuite, eh ben il n'y a pas de consigne particulière pour enseigner le bouddhisme, sauf l'ésotérisme, c'est-à-dire tout ce qui concerne le Vajrayana. Il faut être un lama. D'accord ? Lama, c'est un titre. Hein. Alors, on l'appelle le lama de la lignée, de transmission. D'accord ? Et c'est ça, la sangha.
On peut faire un atelier, par exemple, de méditation, même si on n'est pas lama.
Ben, ça dépend de quel type de méditation. Tu peux enseigner les quatre idées fondamentales, d'accord ? C'est rare, tu peux faire ça matin, vipassana.
Oui.
Alors vipassana, voilà, mahamudra, c'est un peu limite. Méditer, oui, il y a plein de gens qui font ça. Il y a des professeurs de yoga, ils sont pas lamas, ils enseignent la méditation, etc. Mais dans notre contexte bouddhique, hein, du Vajrayana, le lama, c'est un titre qui habilite. D'accord ? C'est pas honorifique, c'est simplement vous savez que vous avez affaire à quelqu'un qui est habilité à enseigner le tantra parce qu'on lui aura transmis. Et bien sûr, il y a des cursus spécifiques, des connaissances plus ou moins aussi, hein, d'accord, plus ou moins habile à enseigner, d'accord, plus ou moins expérimenté. Il peut y avoir un lama qui n'est pas du tout éveillé, qui a aucune expérience, d'accord. Il peut y avoir un lama qui est éveillé, d'accord. Mais ça ne changera rien. Il faudra qu'il soit habile à enseigner correctement la vue de la vacuité. Et ça, même un très bon étudiant qui aurait le titre de lama peut très bien le faire et ça peut vous suffire largement pour vous éveiller, vous. D'accord ? Mais à vous d'exiger, bien sûr, l'exactitude de l'enseignement. Poser des questions, vous référer non pas aux mots mais au sens et ainsi de suite. Enfin, vous connaissez les quatre garanties. D'accord ? Se référer au sens des mots et non pas aux mots. Ne vous arrêtez pas à un mot, vous entendez Bouddha, puis dire oui, je sais à peu près ce que ça veut dire, avec vos connotations propres. Attention, demandez ce qu'il entend par Bouddha. Qu'est-ce qu'il entend par refuge, etc. D'accord ? Et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il entend par karma, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est la première garantie. pour que vous ayez des éléments de réflexion. Si vous opinez sur les mots, vous n'aurez que des opinions de bouddhistes. D'accord ? Vous ressortirez des mots sans en comprendre le sens. D'accord ? Et quand quelqu'un va vous poser la question, vous risquez de dire des bêtises. Hein ? Ou alors, j'ai vu des personnes, en fait, ils commencent à patauger quand j'aurais dit, écoute, je ne sais pas ce sens de comment tu emploies ce mot-là. Parce, hein, les gens qui lancent le mot karma, je lui dis, mais explique-moi ce que tu veux. Et puis, la seule façon de se rattraper, hein, quand ils voient bien qu'ils n'ont pas compris le sens, ils ne l'ont pas intégré, mais ils disent, ben, tu le dis bien, toi aussi, le mot karma. Oui, bien sûr, mais je voudrais savoir ce que tu entends par le mot karma. D'accord ? Et donc ça, c'est de notre recours, ça. Avoir une clarté intellectuelle du sens du mot. Et c'est Sakyamuni qui nous le demande. D'accord ? Se référer au sens et non pas au mot. Et le sens, c'est matière à réflexion, pas le mot. Le mot est une matière à être un adepte d'opinion. On opine à un mot. Ah oui, moi je suis d'accord avec le karma. Oui, alors, ça ne suffit pas. D'accord ? Ah oui, moi je crois au karma. Oui, d'accord, ça ne va pas. Qu'est-ce que tu entends par karma ? Et ainsi de suite. D'accord ? Pour certains, karma, c'est un état de transcendance, une loi rétributive transcendantale, hein, universelle, etc., rétributive, hein, et chacun a ce qu'il mérite, vous voyez, grosso modo. Hein. Et pour certains, c'est synonyme de destin, enfin voilà, etc. D'accord. Donc, Gendun, hein, aspirant à la vertu, ils sont eux-mêmes aspirants, ça suffit. Hein. Éveillé, peut-être c'est bien, hein, mais ça ne changera rien pour vous. D'accord ? Vous devrez méditer de toute façon. Même ceux qui ont connu Sakyamuni, ils ont dû méditer, et certains ne sont pas arrivés. D'autres y sont arrivés, d'accord, à s'éveiller. D'accord ? Ce qui est important, c'est qu'on ait quelqu'un qui soit, qui puisse transmettre correctement la vue bouddhique. D'accord ? Entre autres, la vue de la vacuité, bien sûr. Parce que c'est l'expérience de la vacuité qui éveille. Donc, trois questions, trois joyaux. Vous vous souvenez, hein, enfin, peut-être pas Amina, ça fait longtemps que tu as pris refuge, hein, mais c'est pour ça que j'ai mis en ligne sur le site le texte de refuge. Hein, les anciens, des fois, on a oublié. Hein. Mais il y a les vœux, hein, ordinaires. Les engagements ordinaires, ce qu'on doit abandonner, ce qu'on doit adopter. Hein. Et bien pour chacun des joyaux, ben il y a quelque chose à abandonner et quelque chose à adopter. Pour que ça puisse porter des fruits, bien sûr. C'est des consignes, hein, on ne surveille pas, il y a, d'accord, ce que font les autres, les personnes qui prennent refuge. Ensuite, il y a trois racines. Alors là, les trois joyaux, c'est universel à toutes les voies bouddhiques, à toutes les tradition bouddhique, japonaise, vietnamienne, française, américaine, tibétaine, himalayenne, hein, etc. Et ça. Auvergnate, ici, dans la tradition auvergnate, on prend refuge dans les trois joyaux, c'est la base minimum syndicale. Et là, on a accès à tous les enseignements communs de l'enseignement bouddhique. Ensuite, si dans ce refuge, on inclut d'office, hein, quand on prend refuge avec un lama, on prend. Mais après, vous faites la part des choses, de vos engagements, hein, avec vous-même. Mais on prend d'office le souhait de vouloir s'éveiller pour le bien des êtres. Et là, on inclut l'aspect Mahayana. Alors, c'est un engagement du Bodhisattva minimal. D'accord ? J'aspire à l'éveil pour le bien des êtres. Et c'est inclus dans la formule de refuge. D'accord ? Mais après, on peut prendre tout particulièrement des vœux de Bodhisattva, d'accord, des vœux d'aspiration, des vœux d'engagement et des vœux d'exécution si on veut, mais c'est à partir du 8e terme. C'est même pas prendre des vœux, hein. C'est, on s'exécute. L'activité, hein, qui correspond aux 4 paramitas, les 4 dernières, hein, après la, Après les six premières, il y a quatre. Pour ceux qui connaissent, ceux qui ne connaissent pas, ben vous cherchez sur Google, vous trouverez 10 paramitas, vous étudiez, vous passez un week-end ici pour les étudier. Mais apprenez à étudier par vous-même, parce que c'est mieux. Ça vous coûtera moins cher peut-être. Même on n'a même plus besoin d'acheter des livres maintenant. C'est vrai, c'est dommage, hein. Je suis éditeur, j'aimerais bien qu'on vende des livres. Donc il y a trois racines, et là c'est spécifique au Vajrayana. Pour pouvoir avoir accès aux enseignements du Vajrayana, c'est-à-dire l'ésotérisme, hein, pour faire vite, d'accord, il faut, d'accord, s'appliquer dans cette aspiration, l'usage, on va dire, même pas une aspiration, hein, c'est plus qu'une aspiration, c'est l'usage d'une vue spécifique, d'une vue Vajra. D'accord ? Une vue Vajra, c'est-à-dire une vue où on met en avant l'immédiateté de notre bouddhéité. Si on est Bouddha depuis des temps sans commencement, il n'y a rien à purifier, etc. C'est la voie directe. Vajra, c'est on touche l'immuable nature de notre esprit. D'accord ? Dans le Vajrayana, on parle de ce qui nous est caché. On dit secret ou intime. C'est l'ésotérisme. Cette nature nous est voilée, cachée. Ça rejoint très bien au joyau caché du soufisme, dans le soufisme, l'islam. Dieu est un joyau caché. Il faut y mettre les conditions pour qu'il se découvre. Enfin, c'est pas qu'il se découvre, que nous le découvrions. D'accord ? Donc le Vajrayana parle de la chose cachée, de notre nature qui nous est cachée. Donc quand on fait Shenrezi, quand on fait Chadrupa, automatiquement on parle de Chadrupa comme étant la nature propre de notre esprit. D'accord ? C'est pas une divinité à l'extérieur. Il peut y avoir des expériences visionnaires de Chadrupa, comme pour toute contemplation tantrique, d'accord, hein? Mais c'est des visions, c'est une hallucination. Il n'y a pas quelqu'un extérieur qui se présente à un contemplatif, d'accord. Même si dans les textes ça se présente comme ça, c'est écrit comme ça, d'accord. Mais attention. Qui émerge en la nature de l'esprit, d'accord ? C'est-à-dire qu'une qualité de l'esprit va passer en mode image, d'accord ? Et comme ça a été un peu déjà prémâché par notre génération contemplative, d'accord ? Orientée, effectivement, ça peut se manifester très clairement comme l'icône nous le propose. Mais après, c'est que le début. C'est que le début, hein, de l'expérience tantrique, de la méditation tantrique. Après, le lama va vous dire, faites ça, 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 ça. D'accord ? Alors si on sait avant, c'est mieux. Parce que cette expérience, elle peut être très rare dans une vie d'un contemplatif. Mais un seul instant suffit. Mais la vision ne suffit pas. D'accord ? Il faut après l'assimiler comme étant la coémergence de la nature de l'esprit, le sahaja de la nature de l'esprit, l'union de clarté et vacuité. Donc les trois racines sont indispensables pour pratiquer le Vajrayana. Ce ne sont pas des joyaux, les joyaux ils sont là, d'accord ? Je ne sais pas. Les trois racines, d'accord, ne sont pas des joyaux. On a les joyaux, on n'a pas besoin d'en faire de nouveaux. Les trois racines, c'est des refuges à eux-mêmes. C'est appliquer une vue Vajra, d'accord ? Une vue Vajra dans chaque situation particulière du Vajrayana. D'accord ? C'est une vue vajra qui va nous protéger. C'est-à-dire prendre le lama, hein, sur un point de vue racine, c'est fondamental, de notre nature cachée.
Protéger de quoi?
Je vais le dire. Le yidam, hein, racine, on va prendre, on va revenir au fondement, hein, que nous invite, à laquelle nous invite Sakyamuni, d'accord? Le fondement, il n'y a pas de yidam en dehors de la nature de l'esprit. Il n'y a pas de lama en dehors de la nature de l'esprit. Et Daka, Dakini, protecteur, etc. Racine, donc, c'est se rappeler que le vajana est une voie ésotérique qui nous parle de notre nature fondamentale qui nous est cachée. D'accord ? C'est plus qu'intérieur. La voie bouddhique est une voie d'intériorité, mais là, c'est une voie d'intimité, au sens Saint-Augustin, le plus qu'intérieur. Intime, secret, caché, c'est synonyme. L'idée est la même. Avec le lama racine, on s'évite l'idolâtrie. Enfin, avec le yidam aussi, mais l'idolâtrie dans le sens... comment ? La fascination, le gouroutage, voilà ce que je cherchais. D'accord ? Non pas que ce soit le lama qui peut gourouter, le lama en tant que personne qui peut gourouter, c'est arrivé, hein, ça arrivera encore, mais une auto, un auto-gouroutage par la fascination, la délégation, etc. Et ça peut aller très loin, ça peut amener vraiment des scénarios tragiques pratiquement, d'accord ? Donc vous connaissez, hein, lama racine, c'est une vue, j'insiste, hein, qui fait que tout ce qui sort, qui vient d'un lama de la lignée, pendant qu'il transmet le vajana, hein, nous renvoie à notre bouddhéité. Moi, en tout cas, c'est le projet que j'ai, ma responsabilité. Hein, que j'ai, c'est quand on enseigne Chalupa, on vous renvoie à vous-même. Hein, d'accord ? On ne va pas parler d'une divinité extérieure, etc. D'accord ? On va vous renvoyer à vous-même. Quand on vous donne une initiation, hein, quand je donne une initiation, j'insiste beaucoup. Hein, je vous redonne l'autorisation d'une vue pure, comme moi-même on me l'a donnée, et comme Calon Poché nous le donnait, avec des explications, hein, en insistant sur la vue pure. Pas autant que j'insiste aujourd'hui, peut-être, mais voilà. Après, j'ai eu d'autres lamas qui ont insisté sur la vue pure. Donc la maracine, c'est une vue qu'on va mettre dans une situation qui doit devenir vajra. Si vous voulez être vajra, vous utilisez la vue pure qu'on appelle la maracine quand vous avez affaire à un lama de la lignée qui vous transmet le vajrana, quel qu'il soit. Et vous faites des prosternations, non pas devant une personne, mais devant la considération que vous faites de cette personne. C'est-à-dire son enseignement vous parle de vous-même, de votre propre nature. Pas une considération sur cette personne, d'accord ? Et là, on renvoie à la deuxième garantie que Sakyamuni nous propose. Référez-vous, hein, remettez-vous-en à l'enseignement et non pas à l'enseignant. D'accord ? Voilà. Ou de dire, tiens, c'est important celui-là, parce que cette personne est importante, je vais être complètement attentif. Hein. Et puis, cette personne-là, maintenant, on va avoir une autre écoute, et puis finalement, on n'a pas l'écoute comme on le demande, quoi. Une écoute équanime, hein, de toute objectivité, etc. On écoute, on se tait, hein. Alors on peut interpeller, bien sûr, les questions et tout, mais on ne fait pas ruminer ses doutes, sa méfiance, ou alors sa croyance, simplement écouter un enseignement pour se réconforter dans ses croyances. Vous voyez, hein. Il faut écouter un enseignement pour capter du sens, hein, pour s'apercevoir qu'on avait cru comprendre et qu'on ne comprend plus. C'est très important, cet passage, d'accord, hein, pour finalement avoir encore à nouveau matière à réflexion. Et cette matière à réflexion va nous aider à méditer. Donc le lama racine, ce n'est pas une personne, c'est une vue qu'on va mettre, en l'occurrence, sur le lama de la lignée. Mais après, on le met aussi sur le livre. Alors, dans un colloque, il y a un grand prêtre, Christian Delorme, il vient me voir, il me dit, j'ai découvert avec toi que le bouddhisme est une religion du livre. J'ai dit oui, on fait très attention au livre. Religion du livre, c'est ces mots. Hein. Ce n'est pas une religion au sens strict. Il y a trois religions, et trois religions bibliques, qui prétendent être religuées à une instance supérieure, à une entité supérieure. Mais le mot est peut-être convenable. J'aime bien l'idée de religuer, relier. Hein, d'accord ? Mais on est relié à notre propre bouddhéité inhérente à la nature de l'esprit. Ce n'est pas une instance supérieure, extérieure en tout cas. Et effectivement, on peut dire qu'on on met beaucoup d'importance sur le livre, les traces écrites d'une transmission. Hein, regardez l'hôtel, hein, d'une bibliothèque. Il n'y a pas grand-chose ici, hein, d'accord ? Mais dans tous les grands temples, il y a tous les textes de l'enseignement du Sakyamuni, les commentateurs depuis X années, X décennies, enfin X siècles, et ainsi de suite. Parce qu'à défaut d'enseignant oral, on peut toujours se référer à des textes. Comme dans le christianisme, on a nos docteurs d'église, et leurs textes font référence. D'accord ? Sakyamuni disait, il y a référence. Alors, on dit qu'il n'a pas écrit, effectivement. Enfin, on peut penser qu'il a écrit aussi. Hein. Mais il y avait déjà des textes de référence. Hein. Le texte de référence. Il disait qu'il y a il y a le texte philosophique, hein, comme nous on peut dire théologique, hein, l'Abhidharma, d'accord, qui expose justement la phénoménologie. Hein, on peut dire philosophique, mais c'est phénoménologique. L'Abhidharma, c'est un texte de référence pour le Vajrayana. D'accord. Ensuite, il dit les chants des yogis. Nous, dans notre tradition biblique, chrétienne en tout cas, on a les docteurs de l'Église. Thomas d'Aquin, c'est plus de l'Abhidharma, on va dire. Hein, c'est de la théologie pure, hein, etc. Mais on a Thérèse de Lisieux qui est docteur de l'Église. On a Thérèse d'Avila, je crois aussi. On a deux femmes maintenant. Hein. C'est vrai qu'ils sont. Leur poème fait référence, hein, et authentifié comme étant la trace d'une expérience, d'une réalisation. C'est ça que ça veut dire. Hein. D'accord. Et là, voilà, on fait référence. Alors, dans le monde tibétain, on fait référence à 84 Mahasiddhas, les chants, hein, vous voyez. J'en ai édité quelques-uns, d'accord, hein, qui font référence. Alors, sous forme de chants, de poèmes, etc., etc. C'est une autre approche. Mais ils font référence. Et là, on dit que c'est le lama racine au livre. On prête une vue à un livre. D'accord ? Il ne s'agit pas de le vénérer non plus. On ne vénère pas une personne dans le bouddhisme. Hein, d'accord ? On respecte, hein, qu'il est en train de transmettre. Et ben, on respecte ce livre à des mots qui nous transmet notre nature cachée. Parle plus fort.
Dans l'évangile de Marie-Madeleine, oui. Il disait Jésus, ça ne sert à rien d'écrire, il ne veut pas que les choses soient écrites parce que vous allez vous en faire construire des murs et vous faites votre propre prison.
Tout à fait.
Alors, ce que tu dis là, quand même, on se réfère à la marasse et même à travers un livre, qu'il est la contradiction et le vrai et le faux de Marie-Madeleine.
Non, il n'y a pas à opposer. À défaut d'oralité, si on se trouve à défaut d'oralité, on peut quand même se pencher sur le livre écrit avec des prudences. D'accord ? Mais même dans un enseignement oral, une transmission orale, hein, il faut se méfier. Aussi de la séduction des mots, la séduction de l'enseignant. Hein, c'est rare. Certains vivent des énergies, je ne sais pas, parce qu'ils s'approchent de leur lama, je ne sais pas. Vous voyez, il faut s'en méfier. D'accord ? Etc. D'accord ? Donc, que ce soit oral ou écrit, il faut avoir une certaine méfiance intellectuelle. D'accord ? C'est que je suis là pour écouter, hein, du sens pour que j'ai matière à réfléchir. Si on ne vous donne pas du sens, on va vous demander de croire. Et vous n'aurez pas de matière à réfléchir. On dit, mais ce n'est pas la peine de réfléchir. La foi, crois, tu verras, ça vient tout seul. Méfiez-vous de ce discours. Enfin, moi, je ne sais pas. D'accord ?
Que ce soit en matière d'études, de réflexion, voilà.
Voilà. Mais effectivement,
je ne comprends pas les choses à la lettre.
Une fois écrit, il y a une certaine prison, hein, de l'acception du mot, hein, et on lit très mal. On écrit très mal aussi. C'est très difficile d'écrire. Hein, philosophiquement parlant, poétiquement parlant, c'est très difficile. Parce que c'est le vertige du mot, quoi. C'est tellement...
Parce que la Bible a été écrite trois siècles après.
Oui, ça veut faire sur 600 ans, sur 6 siècles.
6 même.
La Bible ou l'Évangile, tu parles ? Moi, je parle de la Bible.
La Bible, l'Évangile, c'est pas la Bible, c'est la parole.
Ah bah non. Ben, la Bible, t'as la Genèse, t'as le... etc. Même le Coran s'est inspiré des passages de la Bible. Hein? Donc la Bible, c'est la base, hein? qui date de Babel. Hein? Les premiers textes, ils remontent à la création de l'écriture, hein, grosso modo.
Donc c'est l'Évangile qui a été écrit.
L'Évangile, c'est le texte en référence au christianisme, à la vie du Christ. Voilà. On dit des fois le Nouveau Testament. Mmh. L'Ancien Testament, c'est la Bible.
Oui.
L'Évangile, le Nouveau Testament. Mmh. Mais la Bible a été écrite sur à peu près 600 ans. Elle s'est développée...
600 ans avant ou après ?
Sur 600 ans, à partir de, je ne sais pas, l'an 6000 ans, moins 6000 ans. Les premiers... façon de, parce que la rhétorique des mots est importante, c'est aussi une gymnastique intellectuelle. Quand on a une notion de Dieu unique, ça ne se crée pas comme ça, philosophiquement parlant, la rhétorique, vous voyez ? Comment l'expliquer ? D'accord ? Ça prend des temps dans l'évolution intellectuelle de l'espèce humaine. D'accord ? Hein ? Et après, le peuple hébreu a repris ces textes-là, a retransformé des choses. Dans la Genèse, on parlait à une époque de Lilith. Après, Lilith a disparu, c'est devenu une démone.
Mais il a été écrit avant Jésus-Christ.
Bah largement, oui. La Bible. On parle de la Bible. Mmh. Le Christ s'appuyait sur la Bible.
Oui.
Hein? Les prophètes, tout ça, etc. D'accord? La Bible a été écrite. Voilà. Après, le peuple juif se l'est approprié. Hein? Parce que toutes les tribus étaient massacrées autour des Hébreux, quoi, hein, etc. Il restait quelques tribus. C'est intéressant de voir toutes les tribus qui existaient, hein, toutes les langues aussi. Mais ça remonte à, je dis une bêtise, peut-être moins 6000 ans avant Jésus-Christ, la Bible, hein, moins 4000 ans, je ne sais pas. Ça remonte à très très loin. À Babel, c'est... comment on dit ? Ah. L'Empire qui a créé l'écriture en... Hein? Sumer, voilà. Hein? Oui, oui, bien sûr. Oui, oui. Mais il y a des traces, hein, de textes... Je peux me tromper de 2-3 millénaires, hein. Mais ce n'est pas moins 100 avant Jésus-Christ. Hein. Hein. Le judaïsme remonte déjà très loin. D'accord. Les Védas remontent à très loin aussi, hein, avant Jésus-Christ. Les Védas bouddhiques, les Védas hindouistes. Enfin,
c'est quoi,
les textes sacrés de l'Inde. Et on regarde, il y a le même souci intellectuel, hein, de... créer un sentiment d'unité d'une chose, hein. Des principes unitaires, unifiantes, etc. Il y a une évolution d'intellect. Non pas qu'ils étaient moins intelligents, même Cro-Magnon était très très intelligent. Il avait aussi une dextérité du monde imaginal, hein. Avoir les peintures aussi, tout ça, hein. Les rituels funéraires, etc. l'homme préhistorique n'est pas moins intelligent, d'accord? D'accord? Simplement, il y a une sophistication qui s'est faite, d'accord? Hein, qui répondait à des demandes, des progrès, on va dire, hein, sociétal, des interrogations, etc., etc. Et à un moment, il y a tout ce moment-là qui a été très très long à développer l'idée abstraite d'unité, d'accord ? Ce qui a créé après l'idée d'un Dieu unique, d'accord ? Mais ça a pris plusieurs millénaires, d'accord ? Face à l'animisme, le polythéisme, etc. Alors ça peut être un progrès intellectuel, hein. On peut voir, mais c'est le danger de le mettre en mots. Mais on voit la tentative à travers les Védas. Par contre, les Védas, je crois, je crois que c'est les Védas. Hein, où à chaque fois, hein, ceux qui composent ces textes-là disent, on a cru avoir Dieu à ce moment-là, mais c'est un non, il n'y a pas. D'accord ? Et quelqu'un dit, c'est une faillite, ils n'ont pas réussi à réaliser Dieu, alors que dans la Bible, on l'a réalisé. Pas plus. Non, c'est une honnêteté intellectuelle, et surtout, c'est le non-Dieu qu'il faut obtenir. C'est comprendre ce qu'il n'est pas pour savoir ce qu'il est. Vous voyez ? Alors, c'est une rhétorique qui est très, très sophistiquée en Inde. Bon, enfin, je pars dans mes délires. Voilà, pour savoir ce qu'est une chose, tu ne peux pas. Tu le fais toujours par l'infirmation ce qu'il n'est pas. Le judaïsme le fait aussi. D'accord ? Dès lors que tu dis Dieu sait, eh ben, tu es dans l'erreur. Parce que justement, tu es obligé d'utiliser un référentiel discriminant d'une saisie, d'une chose en soi. D'accord ? Et tu fais par l'inverse, eh ben, c'est par ablation de toute discrimination que tu obtiens la plénitude, si j'ose dire. D'accord ? C'est la réalisation de la vacuité, hein, de nos illusions, de nos restrictions, de nos réductions intellectuelles, qui fait que, hop, voilà, on est en vacances de soif, de saisie, d'ignorance. Il y a une tradition chrétienne aussi, comme ça, par la non-affirmation. Ibn Arabi, dans le soufisme, tout jeune, il est passé par la non-affirmation. D'accord ? De Dieu. Mais ça peut être pris pour un blasphème, pour certains. Mais ça, c'est une méthode philosophique pour arriver, justement, à dépasser.
De toute façon, dans l'islam, c'est déjà il n'y a pas de réalité que la... C'est
bien sûr, bien sûr.
Et oui. Il n'a pas inventé, c'est-à-dire, déjà dans la...
Le Bouddha n'a pas inventé la vacuité. Elle existe, hein, dans l'hindouisme, d'accord ? La vacuité de la personne, la vacuité des cinq éléments de la personne, etc. On peut estimer qu'il a réactualisé la vue. Mais effectivement, on peut dire que personne n'a inventé la vue de la vacuité. Elle est présente chez les Grecs, mais c'est pas le mot employé, d'accord ?
Oui, le fait qu'il a réalisé, comme Marie l'a déjà réalisé, tout jeune, cette notion de le non et le oui.
Donc le lama racine du verbe, on l'appelle aussi, ou du livre, d'accord ? Et là aussi, c'est pour ça que le lama racine n'est pas une personne. C'est une vue qu'on va mettre soit sur une personne, quand on est dans le contexte d'un enseignement du vajana. Et à partir du moment où vous avez pris refuge dans les trois racines, vous allez voir un lama, et il va vous demander, vous lui demandez, je veux Shenrazi. D'accord ? Vous exigez. Je veux Shenrazi parce que je veux m'éveiller. Je pense qu'avec Shenrazi, je peux m'éveiller. Et je vous demande donc l'initiation, les commentaires, et le lung, enfin l'insufflance, si on veut, voilà, etc. Hein? Et la première question qu'il va vous faire, est-ce que vous avez pris refuge ? En français, il va dire, hein, bien sûr. Ça veut dire, est-ce que vous aspirez à l'éveil, et est-ce que vous avez une vue vajra, une intelligence de cette immédiateté de l'éveil ? D'accord? Ça va? C'est la question consacrée, quoi. Premier lama à qui j'ai eu un contact, j'ai dit je veux m'éveiller. J'ai dit voir Kalam Bogé, je veux m'éveiller. Il dit bien. C'est tout, quoi. Tu vois? Et il y a des personnes aujourd'hui, je veux faire un stage. Bon, faire un stage, alors. Vous voyez? La valeur de la chose est très différente. Ben oui. Dans mes premiers lamas de proximité, lama Anila Rinchen, je lui dis ça. Je la connaissais à peine, j'étais juste résident, là, j'arrivais. Enfin, j'avais décidé déjà d'être moine, faire la retraite, tout ça. Et bon, je vais la voir, je lui dis, comment on fait pour s'éveiller, quoi, je veux m'éveiller. Hein? Elle a pris, à côté de sa caisse de méditation, 5 volumes, je crois, que j'ai dans ma bibliothèque maintenant. La Prajnaparamita de Nagarjuna, il les a sortis, tu lis ça. Poum. Oui. J'ai lu, relu, etc. etc. J'ai pas lu beaucoup de livres, mais je les ai lus beaucoup de fois. L'étude est vraiment importante, j'insiste. C'est pas devenir intellectuel. L'étude, c'est une gymnastique. On peut relire 2-3 fois, on avait cru comprendre. C'est ça l'expérience d'intellect. C'est ça la jouissance d'un intellectuel au bon sens du terme. Hein? C'est se prendre, avoir cru comprendre. Comprendre, c'est pas bandant. Mais se prendre à défaut. Waouh, j'avais cru comprendre. Vous voyez? Waouh, il y a de la perspective. Vous voyez? Vous comprenez? C'est ça la jouissance. Une belle jouissance, le plaisir de raisonner, etc. Et ça. C'est pas pour aboutir. Hein. Donc, le lama racine du livre est très important. Il y avait un livre que j'avais dit, imprimé à Kegeling, L'alchimie de la souffrance, et c'est une grosse souffrance. Hein. Enfin, c'est même pas moi qui l'avais imprimé. C'était une torture, ce livre. L'impression était maculé, les feuilles maculées, etc. Il fallait faire l'assemblage à la main, 1000 exemplaires, etc. Après, voilà, bref. Et la Matempa Gamso me disait étudie, lis l'alchimie de la souffrance. C'est le texte fondamental du Lojong, hein, l'entraînement de l'esprit, l'entraînement de l'intellect. Il me dit, il faut le voir comme le lama racine. Précieux. Pas le mettre par terre. Hein. Pas négliger. D'accord. Le respect, c'est pour nous ne pas être dans la négligence, une désinvolture, un jean-foutisme. D'accord. Et on met nos textes hein, sur l'autel, on les met plus haut que les statues. Hein. D'accord. Il disait, le lama racine, dans ce texte-là, même s'il est en français, c'est pas grave. Tibétain, il n'est pas particulièrement sacré comme certains pensent, hein, d'accord. Mais que ce soit écrit en tibétain, que ce soit écrit en français, en anglais, en chinois, en japonais, si ça parle du dharma, enfin si ça parle d'une méthode pour s'éveiller, hein, et même ça peut être la Bible, et moi, tous mes livres de poésie, c'est pareil, hein, d'accord. Le même respect, quoi, vous voyez. Et il insistait beaucoup. Lisez-le 10, 20 fois ce livre-là. Et voyez-le comme le lama racine. Hein? L'alchimie de la souffrance. Ah. Ça, ouais. Normal. Ouais. C'est le Lojong. Cet après-midi, on fera une méditation avec de Lojong, avec les gens qui viennent du coin. Lama racine des événements aussi. Taipei Tsawei Lama. Takpa, qui est traduit par le lama racine symbolique. Takpa, c'est... Oui, effectivement, ça peut parler de symbolique. C'est signifiance. Tout est signifiance. Mais à nous d'y trouver une signification. Vous voyez la différence? Tout est une grille de lecture, d'accord? Mais finalement, on lit ce qui nous fait plaisir, d'accord? Signifiance, takpa. Signe. Ça peut être un signe, d'accord? Alors les gens, ils sont en délire d'interprétation aussi, tout est un signe de l'univers, ou ils attendent des signes de l'univers, etc. C'est à nous après d'orienter cette signifiance en conformité à notre aspiration à l'éveil, à notre lucidité, notre aspiration à la lucidité, à ne pas s'illusionner. Si on commence à penser que l'univers nous envoie des signes, d'accord ? Enfin, c'est un point de vue peut-être, à chacun de voir, mais on part dans le délire d'interprétation, dans l'expectative. C'est encore un démon. D'accord ? Donc tout est signifiance, une proposition, une signification, mais à nous d'en tirer sens, signification. D'accord ? Et en conformité avec nos vœux de refuge. J'aspire à l'éveil. Qu'est-ce que c'est que cet éveil ? Notre bouddhéité. Qu'est-ce que ça veut dire, bouddhéité ? Et ainsi de suite. Je ne veux pas refaire la révision. Et là, il y a le lama racine de la signifiance. Et c'est en rapport aux situations, aux événements qu'on peut vivre. D'accord ? Donc vous verrez, si vous lisez des textes, si vous tombez dans les textes, vous direz le lama, racine, symbole, symbolique, etc. Et là aussi, il ne faut pas faire un délire, quoi. Je donne toujours cette même anecdote. Quand j'étais arrivé résident, j'étais très très inspiré par toute une tribu de résidents à Kaguling, dans leur authenticité, etc. D'accord ? Mais je voyais des gens bien perchés aussi. J'étais un peu inquiet, je dis, oula. Alors je suis venu construire le temple, ça m'intéressait de venir construire le temple, puis je suis resté, quoi. Mais je voyais des gens venir de l'extérieur, etc. Et une fois, c'est juste une anecdote, c'est pas pour enfoncer cette personne, mais on trouve ça beaucoup, ce délire d'interprétation. C'était où Kalon Poché était venu pour des grandes initiations, plusieurs jours, etc. Et là, ça fait venir plein de monde, etc. Après, tout le monde repartait, on se retrouvait à quatre pour construire le temple, avec Dewa, Dechen, et, Mingyur et moi. Après, moi, j'étais à l'impression, mais grosso modo, 8 mois de l'année, on était à quatre pour construire le temple. Et un jour, il y a une personne qui est venue pour les initiations. Je la croise, puis elle m'explique « J'ai eu des obstacles. » Alors, ça, c'est le mot-clé, quoi. « J'ai eu des obstacles. » D'accord ? Comment ça ? Eh bien, je voulais venir, etc. Et puis, j'ai eu un accident, un problème, mon pneu a crevé, je ne sais plus quoi. Ça, puis, je n'avais pas fait le plein. Puis après, il y a la loi des séries. Puis, elle commence à me dire « Il est fort qu'à l'on est poché. » Je lui dis, pourquoi ? Ben, il m'envoie plein d'obstacles pour me mettre à l'épreuve. D'accord ? Et parce qu'ils ont entendu le lama racine des événements, enfin le lama racine symbolique, d'accord ? Et comme ils prennent le lama racine comme étant la personne, et ils vont dire, Kalon Poché est mon lama racine. D'accord ? Et bien après, il y a tout un délire d'interprétation, c'est Kalonpoché, d'accord, qui leur envoie des épreuves. Alors on trouve ça aussi, hein, les épreuves de Dieu. Hein, d'accord. Et là, c'est un démon. C'est-à-dire se prêter autant d'importance, hein, que Dieu s'arrêterait sur toi pour t'envoyer des épreuves, et ainsi de suite. Vous voyez le démon, hein. Bien sûr qu'il y a des épreuves. Bien sûr que devant une difficulté, tu pourrais très bien te décourager. Bon, j'y vais pas, Kaguline, je vais pas prendre les initiations. D'accord. Mais c'est de ton recours. Hein. Où c'est qu'elle est ton aspiration? À toi de t'interroger. D'accord. Il y a des personnes qui disent, oh, moi, je peux pas venir. Hein. Voilà, pour ça, pour ça, pour ça. Mais tu veux venir? Oui, j'aspire. Bah, fais-le. Oui, mais tu vois, je peux pas. D'accord. Si. Écoute ce que tu. Ton vouloir, d'accord. Après, il peut y avoir des difficultés, etc. Hein, grosso modo, mais on peut s'arranger. Et, voilà. Après, effectivement, il peut y avoir vraiment des impératifs. D'accord. Et c'est là aussi que peut s'immiscer, donc, ces démons, différents types de démons. Hein. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas prendre le lama racine comme étant une personne. Hein. Mais une vue sur les événements qui donne à nous renforcer dans la signification qu'on veut des choses. Donc il y a une signifiance qui se propose, hein, et moi j'y mets le sens que moi je décide. Effectivement, c'est difficile, mais je renforce mon aspiration, ou alors effectivement, là c'est pas possible, mais c'est pas par paresse, résignation ou complaisance que je cède à la difficulté, d'accord ? Et souvent, c'est le mot-clé obstacle. Hein. Alors que c'est une difficulté, quoi, effectivement. Hein. Mais des obstacles envoyés par. Vous voyez, hein. Vous voyez la différence de vue. Donc là, il y a trois lamas racines. Hein. C'est une façon classique, hein, de présenter les trois lamas racines. Des fois, aussi, on dit le lama racine du Dharmakaya, le lama racine du Sambhogakaya, le lama racine du Nirmanakaya. Le lama racine du Nirmanakaya, c'est. Prendre le lama de la lignée, d'accord, comme étant l'expression, d'accord, de l'enseignement d'un Bouddha. D'accord, tout ce qui vient à sa bouche vont être, hein, un enseignement d'éveil, hein, que je dois, bien sûr, écouter précisément, réfléchir et méditer. D'accord, c'est le lama racine. On peut tout mettre à travers le lama racine et du trikaya, hein, dharmakaya, sambhogakaya, nirmanakaya. Mais sinon, on peut revenir aussi au yidam racine. Donc le lama racine est une vue qu'on met sur telle chose. Et même arriver à certains progrès de la vue, hein, quand on élimine pas mal de discriminations, eh ben, on peut voir les êtres dits ordinaires indifférencié du lama racine. D'accord. Ça veut bien dire que ce n'est pas une personne. Alors, si vous dites que le Kalonpoché, c'est mon lama racine, vous allez essayer intellectuellement de comprendre ce que ça veut dire. Mon voisin est Kalonpoché. Voilà. Vous voyez ? Non, vous disposez de la même vue que ce soit Kalonpoché ou votre voisin. D'accord. Et puis après, on peut avoir le lama racine jusqu'à son pire ennemi. Donc voyez bien cette notion, elle est vraiment importante parce qu'elle nous protège, au vrai sens, elle nous protège d'idolâtrie, de délire d'interprétation, et ainsi de suite. Ça va ? Et c'est pour ça que c'est lié au Dharmakaya ici, hein, dans ces textes, dans les textes que j'écris. Lama racine, la vue pure au lama racine nous relie au Dharmakaya, c'est-à-dire cette impossibilité de dire c'est ça ou pas ça. Le Dharmakaya, c'est l'indicible, l'invisible, l'inquantifiable, l'inconcluable, l'inconceptuel, etc. Pour revenir à l'idée de non-affirmation. Plus on développera cette vue pure qu'on appelle lama racine, plus on arrivera à contacter le grand mystère qui ne s'affirme pas. D'accord ? Le Dharmakaya. Qu'on utilise encore avec un mot qui est piégeant, certes, hein, mais il faut bien utiliser des moyens, d'accord, faire usage de mots. Mais le mot mystère me convient très bien pour dire Dharmakaya. C'est de l'ordre du mystère. Alors dans le soufisme, on parle de théophanie. J'aime bien ces trois, cette trinité aussi, soufi. Théophanie, archétype image, épiphanie. Épiphanie, c'est nirmana. Une apparition, épiphénomène hein, particulière, comme l'étoile du Christ, par exemple. Hein. Bien sûr, il y a tout. Hein. Walt Disney autour de ça. Hein. Encore que. C'était des astrologues, ils voyaient une conjonction, voilà, etc. Vous voyez, épiphanique. Hein?
Épiphanie.
Fanny, c'est apparition, manifestation. Et trois instances de la contemplation soufie. Hein. Moi, j'aime bien, c'est vraiment beaucoup plus intéressant. Théophanie, l'apparition de Dieu. Qui...
Théophanie, c'est Dieu.
Pardon?
Théophanie, c'est Dieu.
Non, Théo. Fanny, apparition. C'est de l'ordre du mystère, de l'invisible. Mais on parle bien d'apparition? Oui. Son invisibilité.
Ça, c'est...
est théophanique.
Une deuxième image, c'est une deuxième dans l'image, ça?
Non.
Son invisibilité.
Théophanie, archétype image, épiphanie. Trois. Si on veut faire des équivalents, j'ose faire l'équivalent, théophanie, c'est Dharmakaya. Archétype image que j'utilise beaucoup, c'est Sambhogakaya. En vertu de la vacuité, tout est manifestation. Dans l'hindouisme, on dirait Maya. Tout est une magie. En entendant image, de la magie. D'accord? Cela est vide d'existence propre. Et cela permet la magie de l'apparence, de l'apparentialité, de la fanie. Et ça, c'est l'archétype image qu'on utilise en science contemplative, avec des symboles qui sont peut-être plus ou moins universels, éventuellement culturels, hein, mais qui renvoient à des qualités inhérentes, des aptitudes de la conscience inhérentes à l'esprit, par contre. La compassion, elle n'est pas bouddhique, elle n'est pas indienne, elle n'est pas tibétaine, elle n'est pas auvergnate. D'accord ? Un orthodoxe va la méditer avec une icône bien particulière, une représentation particulière de Jésus-Christ. Et nous, on l'utilise avec une représentation bien particulière, Shenrezig, par exemple, à quatre bras, pour faire vite. Mais le fin mot d'histoire, c'est d'aboutir à la nature de la compassion de l'esprit. Une aptitude de la conscience, non pas... de compassion au sens de sentiment. C'est une attitude savante de la conscience de comprendre l'illusion de l'autre et que son illusion de l'autre produit sa souffrance.